mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. Au Mali, des hommes armés non identifiés ont attaqué mercredi 4 villages Dogon dans la municipalité de Bankass, dans la région centrale de Mopti, faisant 32 morts, dont des femmes et des enfants, ont appris hier Kadiatou Traoré et Mohamed Touré du service Bambara de VOA Afrique. Le maire de Bankass, Alaï Guindo, a dit à Kadiatou que les assaillants venaient de Baye, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, à bord de pick-up et de moto, et ont attaqué simultanément les quatre villages Gouari, Jimdo, Pangadopou, Yalakanda. Les Dozo, chasseurs traditionnels qui assurent la défense des villages, ont subi de lourdes pertes. L'armée qui a un camp à 20 km de Gouari est arrivée sur place après la fin des affrontements. Le comité international de la Croix-Rouge s'est alarmé hier de ce qu'il a appelé une érosion du respect du droit humanitaire au Burkina Faso au lendemain de la découverte de 7 corps criblés de balles de terroristes présumés dans l'est du pays. Selon le ministère de la Défense, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative, à la suite d'une opération militaire menée le 29 juin à Boumouana, près de Tanwalbougou, dans la région de l'Est, 7 individus morts par balle auraient été découverts par les habitants. Au Niger, 5 villageois ont été tués, 4 blessés et un autre enlevé, dans une attaque attribuée au groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la commune de Geskerou, proche du Nigeria, a indiqué jeudi à l'AFP le maire de cette commune du sud-est. Les assaillants sont arrivés mercredi nuit, a-t-il précisé, à Ngaroua, Ghana. Accueilli en grande pompe après 2 mois d'absence en raison de problèmes cardiaques, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est rentré ce jeudi en Côte d'Ivoire pour reprendre ses activités à la tête du gouvernement, mais aussi celle de candidat à la présidentielle. En Éthiopie, 2 morts hier dans des heurts entre les forces de sécurité et des habitants qui cherchaient à assister aux funérailles du chanteur Achalou Undessa de la communauté Oromo, le premier groupe ethnique du pays. Son meurtre, dont on ignore le mobile, a déclenché des manifestations et a coûté la vie à près de 100 personnes. En Algérie, geste apparent d'apaisement à la veille de l'anniversaire de l'indépendance, la justice a libéré hier une figure emblématique du mouvement populaire anti-régime, Karim Tabou, et 3 autres militants connus, Amira Bouraoui, Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche. Au moins 53 069 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées aux États-Unis en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins, un niveau record depuis le début de la pandémie, à la veille du long week-end de la fête nationale américaine du 4 juillet. Les États-Unis déplorent 128 677 décès pour plus de 2,7 millions de cas. Au Texas, une explosion de nouveaux cas a forcé le gouverneur républicain Greg Abbott, un allié du président Donald Trump, à rendre le port du masque obligatoire en public. L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois en juin, un record sur un mois, de quoi réjouir le président Donald Trump, mais la reprise pourrait être compromise par la résurgence de la pandémie aux États-Unis. Ghislaine Maxwell, ex-collaboratrice et ex-compagne de feu Jeffrey Epstein, a été arrêtée jeudi aux États-Unis et inculpée de trafic de mineurs, accusée d'avoir recruté des jeunes filles victimes d'abus sexuels commis par le financier new-yorkais. Les frères ennemis palestiniens du Fatah et du Hamas se sont engagés hier à l'unité contre le projet israélien d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée.
La suite de nos informations, au Tchad, la Commission nationale électorale a fixé au 24 octobre 2021 la tenue des élections législatives. Ces élections ont été maintes fois reportées depuis plus de 5 ans. Eric Manirakidza.
Les législatives auront lieu le 24 octobre 2021, selon la radio nationale, soit 6 mois après la présidentielle fixée au 11 avril, à l'échéance normale du mandat de 5 ans du chef de l'État Idriss Déby Itno. L'actuelle Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle, avait été élu en 2011 et devait être renouvelé en 2015. Mais M. Déby a repoussé le scrutin à 5 reprises, invoquant régulièrement la menace de Boko Haram qui multiplie les attaques meurtrières dans l'ouest du pays depuis 2015, puis des difficultés financières et l'épidémie de coronavirus. La date du 24 octobre 2021 a été annoncée à M. Déby par Cody Mahamat Bam, président de la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin devra permettre l'élection de 166 députés contre 188 actuellement. Au pouvoir depuis près de 30 ans, Idriss Déby Itno a été réélu pour la dernière fois en 2016.
Le syndicat national des journalistes du Cameroun a dénoncé hier la confiscation du corps du journaliste Samuel Wazizi, mort en détention en août 2019. Jusqu'à présent, la dépouille n'a pas été restituée à sa famille. Le point avec Eki Abadou.
Un mois après l'annonce de son décès par l'armée, la famille de Samuel Wazizi n'a toujours pas récupéré son corps, a affirmé hier un avocat, Maître Édouard Éoulé. Le SNJC dénonce la confiscation du corps du journaliste Samuel Wazizi dans une déclaration lue à Douala. Arrêté le 2 août 2019 à Bouéa, dans le sud-ouest anglophone, M. Wazizi est mort en détention le 19 août, peu après son arrestation. Ce décès n'a été annoncé que 9 mois plus tard, d'abord par la presse, puis par l'armée, qui a accusé le journaliste d'avoir œuvré comme logisticien de divers groupes terroristes dans l'ouest anglophone. Des syndicats camerounais de journalistes affirment que M. Wazizi est mort après avoir été torturé. L'armée déclare qu'il est décédé des suites d'une septicémie à l'hôpital militaire de Yaoundé. Et pour le moment, personne ne sait pourquoi son corps n'a toujours pas été rendu à sa famille.
Malgré les critiques de l'Occident et de l'opposition russe, le président Vladimir Poutine a remercié hier ses compatriotes d'avoir validé largement une réforme l'autorisant à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine a adressé un grand merci aux Russes pour leur soutien et leur confiance. Il a assuré que la réforme offrira une stabilité intérieure et du temps pour renforcer le pays et toutes ses institutions. Plus tôt, le Kremlin avait salué en triomphe. Selon les résultats finaux, le vote s'est conclu par une victoire du oui à près de 78%. L'un des amendements donne à Vladimir Poutine l'option d'effectuer 2 mandats supplémentaires à l'issue de l'actuel en 2024. Il aura ainsi la possibilité de rester au Kremlin jusqu'en 2036. La révision introduit aussi dans la Constitution des principes comme la foi en Dieu, le mariage exclusivement hétérosexuel et l'enseignement patriotique. L'opposant Alexis Navalny a qualifié le vote d'énorme mensonge. Washington se dit préoccupé alors que l'Union européenne demande à Moscou d'enquêter sur les irrégularités signalées. Le premier ministre indien Narendra Modi, proche du président russe, a chaleureusement félicité le président Poutine.
La Minute Éco est qui abonne.
Afin de mieux coordonner ses activités en Afrique subsaharienne, la Banque mondiale annonce une réorganisation de la région. En effet, elle compte consacrer plus de 29 milliards de francs CFA aux 48 pays d'Afrique subsaharienne, environ un tiers de l'ensemble de son portefeuille. L'objectif étant est d'aligner les ressources sur les priorités en vue de contribuer à conduire les réformes et les politiques nécessaires pour parvenir à une croissance soutenue et généralisée, réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie des populations du continent. Au Togo, le Trésor public vient de lancer un appel d'offres. Il sollicite 30 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. C'est la première sortie au second semestre sur ce marché, après une première partie d'année faste où les émissions du pays se sont soldées régulièrement par des souscriptions. Pour cette nouvelle incursion, les deux obligations nominales 10 000 francs CFA sont de maturité 3 et 5 ans, rémunérées respectivement au taux annuel de 6,15% et 6,4%. L'enveloppe mobilisée servira, selon les autorités, à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Les compagnies aériennes et l'industrie touristique en Afrique ont perdu 55 milliards de dollars avec la fermeture des frontières décidée pour tenter de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus, a estimé jeudi l'Union africaine. Le trafic aérien en Afrique a enregistré au cours des trois derniers mois une baisse de 60 millions de passagers sur les vols internationaux et 30 millions sur les vols domestiques, a-t-il précisé.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous, direction la République démocratique du Congo pour parler de la nouvelle présidente de l'AS Vita Club. Le club quinois a élu Bestine Kazadi à la tête de V Club en remplacement du général Gabriel Amissi Tango qui a dirigé le club quinois pendant 12 ans avant de se retirer. Qui est Bestine Kazadi? Première dame a dirigé la formation congolaise depuis sa création en 1935. Notre consultant à Kinshasa, Valdo Simbo Yamba Yamba, nous l'a décrit.
Unique femme en course pour la succession de Gabriel Amissi Kumbadi Tango Fort à la coordination de l'AS Vita Club, Bestine Kazadi a surclassé tous ses concurrents avec à l'arrivée 38 voix sur les 71 votants. Ce qui fait de la fille de Kazadi Chichichi de son vivant président du conseil suprême de l'AS Vita Club, première femme en RDC à occuper un poste aussi important dans un club de football. Présidente de coordination pour les 4 prochaines années au sein de l'AS Vita Club, Bestine Kazadi est loin d'être novice au sein de cette formation de Kinshasa pour y avoir été l'œil de son défunt père au soir de sa vie. Licenciée en droit et avocate inscrite au barreau de Kinshasa, Bestine est conseillère en matière de coopération et intégration régionale de l'actuel chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Son élection à la tête de l'AS Vita Club la place encore un peu plus sous les projecteurs. Elle qui a toujours été discrète, mais efficace. Au-delà des défis qui l'attendent, notamment un titre continental pour les Dauphins Noirs de Kinshasa, l'assurance santé, la survie et la sécurité sociale des joueurs est l'une de ses priorités, s'appuyant sur son expérience à la mutuelle de santé MNK mise en place par son défunt père en 2012. Bestine Kazadi et la coordination des Vita Club pour les avertis. L'histoire du général Amissi Kumbadi Tango Fort est loin d'être fini.
C'était notre consultant Valdo Simbo Yamba Yamba depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. En Europe, le défenseur latéral marocain du Real Madrid, Achraf Hakimi, qui était prêté depuis 2 ans au Borussia Dortmund, a été transféré à l'Inter Milan. Achraf Hakimi est officiellement un joueur de l'Inter, a écrit le club italien dans un communiqué. Le Marocain de 21 ans a signé un contrat de 5 ans, précise l'Inter. Ni le Real Madrid ni l'Inter Milan n'ont donné de détails financiers sur le transfert, mais selon les médias italiens, l'opération se serait bouclée autour de 40 millions d'euros, plus des bonus estimés à 5 millions d'euros. Né à Madrid, Hakimi possède la double nationalité marocaine et espagnole et a intégré l'école de football du Real dès ses 8 ans.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Congo-Brazzaville, Amnesty International appelle les autorités de ce pays à libérer de toute urgence et sans condition le général Jean-Marie Michel Mokoko et 5 autres prisonniers d'opinion. Eric Manirakidza a joint à Dakar Fabien Hoffner, chercheur au bureau d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Alors il y a 2 raisons à cet appel. Il y a une raison déjà ancienne, malheureusement, qui est le fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko est en détention arbitraire depuis sa condamnation en 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le groupe des Nations Unies sur la détention arbitraire avait considéré dans son avis de 2018 cette détention justement comme arbitraire pour une série de raisons qui ont été développées dans cet avis et avait appelé à le libérer immédiatement et sans condition. C'est la première raison, plus ancienne. La raison plus récente, c'est à cause de la pandémie Covid-19 qui touche la République du Congo comme beaucoup d'autres pays dans le monde. Et là encore, dans la foulée de l'appel qu'avaient fait les Nations Unies il y a quelques mois, eh bien nous appelons à libérer les détenus les plus fragiles, les détenus malades, dont la santé est un problème dans ce contexte de pandémie. Et c'est le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, selon ses proches et ses avocats que nous avons pu contacter. Le général a fait un malaise il y a quelques jours et donc cette situation est d'autant plus urgente aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez que les autorités congolaises vont répondre à votre appel?
Nous le souhaitons. Malheureusement, il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent penser que ce ne sera pas une évidence. Mais voilà, il faut toujours rappeler le droit, ce qui a été dit. C'est la détention de Jean-Marie Michel Mokoko est arbitraire. Ça a été dit. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, dans un discours à la Nation à la fin 2019, avait expliqué qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Congo et qu'il n'y avait que des politiciens condamnés pour des délits de droit commun. Les faits montrent le contraire. C'est le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, mais c'est aussi le cas de d'autres personnes, notamment de M. Salissa, qui a en commun avec M. Mokoko d'avoir été condamné et d'avoir été candidat à l'élection présidentielle de 2016. Ce que nous avons également voulu souligner dans ce communiqué, c'est également le cas de 4 sympathisants du mouvement Incarner l'Espoir, qui sont également détenus depuis de longs mois et dont la détention est devenue arbitraire il y a quelques jours de cela, puisque le délai de détention provisoire a été dépassé. Voilà, tous ces éléments montrent que, comme c'est le cas depuis plusieurs années au Congo, il y a tout simplement une volonté de réprimer la dissidence au Congo, quelles que soient ses formes, que ce soit par le simple fait de s'exprimer contre le gouvernement ou par le simple fait d'appartenir à une organisation susceptible de pouvoir émettre des voix critiques envers le gouvernement.
Au-delà de cet appel, est-ce que vous envisagez d'autres mécanismes pour obtenir la libération de M. Mokoko et les autres prisonniers d'opinion dont vous avez cité?
Plusieurs organisations suivent le cas de M. Mokoko et des autres. La saisine du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait déjà été faite il y a plusieurs années, que les avis ont été mis en 2018. Les solutions sont limitées et évidemment la solution viendra des autorités congolaises. C'est les principaux moyens qui ont été utilisés jusqu'à présent. Voilà, on est avec un État congolais qui est particulièrement dur avec les opposants et qui réprime de façon particulièrement systématique. Donc tout n'est pas possible, mais il faut rappeler dès que c'est possible le droit, ce qui existe, et que ces personnes sont détenues alors qu'elles n'ont absolument rien à faire dans ces prisons aujourd'hui.
Fabien Hoffner, chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le militant anti-esclavagiste Biram Oud Abeid dénonce le silence des Africains sur le sort des Mauritaniens victimes de discrimination, alors que la mort de George Floyd aux États-Unis a suscité l'indignation à travers le monde, y compris en Afrique. Il s'est aussi prononcé sur le rapport du département d'État sur le trafic d'humains dans lequel la Mauritanie progresse légèrement, passant de la troisième à la deuxième catégorie. Joint à Nouakchott par Abdourahmane Dia, Biram Ould Abeid.
Bon, le pays n'a fait aucun progrès dans la lutte contre l'esclavage, ni pour l'amélioration de l'état de droit, ni pour l'amélioration des droits de l'homme. Mais on assiste seulement à un enfumage de la délégation américaine ou des chercheurs américains. En tout cas, moi, j'ai vu que les recommandations des États-Unis restent des recommandations très fortes concernant l'esclavage, concernant le racisme d'État, concernant la tentative de génocide qui a rendu les Noirs, concernant le trafic des êtres humains. Mais je pense que nous sommes en recul même sur les droits de l'homme en Mauritanie au cours de l'année 2020.
Ce mouvement Black Lives Matter qui est né ici aux États-Unis pour lutter contre les discriminations, est-ce qu'il y a justement un parallèle à faire avec la Mauritanie?
Bien sûr que vous avez, que nous avons ici nos George Floyd. Il y a le jeune Abbas Diallo qui a été froidement abattu par l'armée mauritanienne au cours d'une patrouille ordinaire. On a assisté aussi au jeune Abou Diddy Diop qui a été pris dans la même position d'étranglement par le genou autour du cou qui a été fait par des policiers ici il y a deux semaines dans un quartier de Nouakchott, un quartier populaire.
Alors, est-ce que selon vous, justement, le cas mauritanien attire suffisamment l'attention de la communauté internationale et même, disons, de l'Afrique?
Le cas mauritanien n'attire pas suffisamment l'attention de l'Afrique parce qu'il y a une complicité entre les élites africaines et les élites afro-américaines et les élites arabo-islamique sur l'esclavage et la traite orientale, la traite arabo-musulmane, l'oppression des personnes d'ascendance africaine au sein du monde arabo-musulman. C'est une oppression qui a toujours été niée, cachée et reléguée au profit d'une union sacrée contre les crimes de l'homme blanc, l'esclavage de l'homme blanc, l'apartheid de l'homme blanc et l'impérialisme de l'homme blanc.
L'Union africaine devrait prendre cette question beaucoup plus au sérieux, selon vous?
J'avais dit que l'Union africaine est dans le cadre de ce deal de complicité par le silence avec l'élite politique arabo-musulmane.
C'était le député et opposant mauritanien Biram Ould Abeid.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Gabon, c'est désormais la condition posée par les services d'immigration pour renouveler ou bénéficier d'un titre de séjour sur leur territoire. Les travailleurs étrangers seront soumis au paiement d'une somme forfaitaire à la recette des impôts. La disposition est contenue dans le projet de loi de finances rectificatives de l'exercice budgétaire en cours. Pour les autorités, cette nouvelle disposition vise à lutter contre l'informel, tout en permettant à tous ceux qui exercent une activité rémunérée de contribuer à l'effort fiscal, particulièrement en temps de récession. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Commerçant de pierres d'argile blanche au grand marché Momboué de Libreville, Tony, d'origine nigériane, marque son étonnement face à ce nouvel impôt sur le revenu des travailleurs étrangers. ce d'autant plus que le contexte sanitaire du moment a selon lui entraîné une baisse drastique de sa principale source de revenus.
Je ne sais pas de quel mois que ça va commencer. Si c'est 7 mois-là, c'est vraiment impossible parce que nous sommes dans le confinement. L'activité ne bouge pas, elle est, tout est bloqué, on ne sait pas sur quelle base que nous allons récolter, c'est qu'on va renouveler ou payer encore les taxes. D'abord, nous avons commencé d'abord 50 000 francs pour renouveler les cartes de séjour. Ce n'est plus ça, hormis les dossiers que vous allez faire. Ce n'est plus ça, c'est maintenant 100 000. Après 100 000, c'est encore 150 000, 2 ans.
Sous un hangar qui leur sert d'atelier de réparation de voitures, les frères Abdul Karim du Cameroun sont aussi dans l'informel. Avec des clients qui se font de plus en plus rares, pas facile de joindre les deux bouts, l'un des frères mécaniciens montre sa carte de séjour qui va bientôt expirer.
Tirons le diable par la queue. S'il faut maintenant que, à 150 000, qu'on essaie encore de réfléchir combien on viendra déposer la devise, je crois que peut-être c'est une autre façon de lui demander de ne même plus les faire la carte de séjour. Moi je pense que c'est comme ça. Dit à l'étranger là que non, même la carte de séjour que vous renouvelez à 150 000, ne la renouvelez même plus, en passant par des portes de taxes et consorts.
Avec cette crise, l'État gabonais a perdu à peu près 600 milliards de francs CFA de recettes. Par conséquent, dans la loi de finances rectificative, les cadres du ministère de l'économie ont dû faire preuve d'innovation. Une de ces innovations, ça a été notamment désormais d'imposer un impôt aux travailleurs étrangers qui ont une activité au Gabon. Et
les entrepreneurs et les autres travailleurs du secteur informel sont concernés par cet impôt obligatoire. Selon cet ex-banquier d'affaires, il faut partir du contexte qui justifie le projet de loi de finances rectificative en cours pour mieux cerner la réforme gouvernementale. Willy Ontia est expert financier.
La plupart sont dans l'informel. Donc il y avait difficulté de les fiscaliser. Donc d'où a été trouvé le point d'entrée, qui est celui de la carte de séjour, pour pouvoir fiscaliser ces personnes-là qui habituellement ne déclarent pas leurs revenus au fisc.
Ce projet de loi soumis au vote du Parlement et à un examen de conformité à la Cour constitutionnelle doit par la suite être promulgué par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avant son entrée en vigueur sur le territoire national. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Après des mois de restrictions dues au coronavirus, l'Union européenne a commencé à rouvrir ses frontières aux visiteurs de 14 pays. Les États-Unis, où le virus est revenu en force dans certains États, ne sont pas sur la liste. Les Américains ne peuvent ainsi plus se rendre à Paris, destination touristique la plus prisée du monde. Reportage de Lisa Bryant dans la capitale française, repris ici par Lionel Gahima.
Les rues de Paris et les sites touristiques sont inhabituellement calmes. Les touristes locaux sont là, mais avec les interdictions de voyager, il y a peu d'étrangers et pas d'Américains. Rosemary Flannery tient une librairie populaire en langue anglaise. Elle est aussi auteure et guide touristique.
Ce fut un grand choc découvrir au mois de mars que tout a été annulé. Toutes les personnes qui devaient venir pour les vacances de Pâques, tous ceux qui allaient venir l'été et même ceux qui allaient venir en septembre, tous les voyages ont été annulés.
Le tourisme est une manne pour Paris. Il emploie près de 10% de la main-d'œuvre de la région. Les touristes américains sont très prisés à travers l'Europe qui accueille environ 15 millions de voyageurs étrangers chaque année. Rosemary Flannery témoigne.
Les touristes américains sont super. Honnêtement, je pense qu'ils sont les meilleurs. Ils adorent Paris. Ils sont fous de la France. Ils sont très enchantés par la vie, la nourriture, la Seine et par la beauté de l'architecture.
Pour l'heure, les Américains ne sont pas sous la liste des voyageurs autorisés par l'Union européenne. Bruxelles promet de revoir cette liste régulièrement, en ajoutant ou en enlevant des pays en fonction de leur situation sanitaire. En juin, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis travaillent avec l'Union européenne pour une ouverture des frontières en toute sécurité.
Je pense que nous prenons tous au sérieux la nécessité de trouver le moyen d'ouvrir. Nous devons relancer l'économie mondiale. Nous allons travailler pour bien faire les choses. Nous voulons nous assurer que tout soit fondé sur la science, sur la santé.
Fixer les restrictions de voyage n'a pas été simple. Lorsque l'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie en mars, Washington a interdit les visiteurs européens. Bruxelles a rendu pareil à présent que les cas diminuent dans les pays européens et augmentent dans certaines parties de l'Amérique. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors.
D'une certaine manière, cela peut être considéré comme une explication que l'Europe n'a pas été très impressionnée par les mesures prises par les États-Unis. Mais il y a aussi une certaine réciprocité. Si les États-Unis maintiennent leur interdiction pour les Européens, nous garderons également la nôtre.
Quelle que soit la direction que prendront les relations transatlantiques, beaucoup de Parisiens, les tenanciers de bars et restaurants en particulier, espèrent et attendent vivement le retour des Américains.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedounia et de Michel Joseph.